Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des outils et des stratégies pour vous aider à monter votre marque. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Gibaud, le fondateur du slip français. Bonjour Guillaume.
Salut.
Pour commencer... Et comme il est coutume dans ce podcast, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît?
Ouais, bah écoute, je m'appelle Guillaume, je suis parisien, j'ai 34 ans la semaine prochaine. Alors, je sais pas quand le podcast sortira exactement, mais c'était le 17 juin si vous voulez m'envoyer des messages. Je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Joseph, qui a 9 mois. Et j'ai créé il y a 8 ans maintenant une marque de mode qui s'appelle le slip français. Surtout une marque de slip qui a la particularité de fabriquer tous ses produits en France. Et aujourd'hui, on est 110 personnes et on n'est pas loin d'être un des plus gros marchands de slip sur Internet en France. Donc, un beau sujet dont on va parler en long, en large, en travers, je pense, aujourd'hui. Mais histoire de slip.
Très bien. Et ma deuxième question, en général, c'est de... Je demande à mes invités de reprendre leur parcours depuis leur plus tendre enfance jusqu'à la création de leur boîte. Et puis après, on rentre dans le dur, quoi.
Dans le dur, ouais. Ok. Écoute, moi, mon parcours est assez classique au début. J'étais jeune... élève studieux et bon élève à l'école et en fait si je remonte d'un cran en fait j'ouvre mon cœur mon papa il y en a grave accident de voiture quand j'avais 5 ans et du coup ça m'a pas mal marqué j'étais assez sage et gentil et bon élève quand j'étais jeune de vouloir pas trop faire de vagues donc je me suis pas trop posé de questions et je faisais un peu ce qu'on me demandait. Et du coup, je suis entré à HEC et j'en suis sorti en 2009 sans m'être jamais vraiment posé la question de ce que je voulais faire dans la vie. En gros, j'ai suivi, j'ai bien fait les choses et ça marchait bien, donc c'était cool. Et je me suis vraiment confronté à un mur en sortant de l'école. J'ai pris un premier job chez General Electric, qui est une des plus grosses boîtes du monde. Mmh. Un gradué de programme où tu fais différents métiers et tout. Et je me suis retrouvé à faire de la compta dans une tour à la Défense. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi? J'avais 24 ans... J'avais pris ce job dans un forum carrière sans trop réfléchir quoi. Et je me dis comment est-ce que j'en suis arrivé là en fait. À quel moment j'ai pas décidé de faire un truc qui me plaît pour arriver dans un métier auquel je comprends rien. Je réconcilie des notes de frais, je fais des Excel jusqu'à 23h. Enfin, je me dis il y a peut-être d'autres façons de s'épanouir dans le travail que ça quoi. Mmh.
Tu te rappelles de ce moment où tu te prends le mur quand même?
Ouais, vraiment, je me rappelle physiquement. Je suis resté quand même quelques semaines et je me rappelle vraiment j'allais aux chiottes et je me regarde dans le miroir, je me dis mais qu'est-ce que tu fous là quoi, tu sais, vraiment des Excel, enfin, et je pense que ça parlera peut-être à certains qui nous écoutent, mais tu fais des Excel qui font plus de 150 000 lignes parce que le Excel faisait 150 000 lignes à l'époque et tu es en train de réconcilier des lignes de gens qui sont à l'autre bout de la manette, tu te dis mais putain en fait qu'est-ce que je fais là quoi. Et je me souviens vraiment de me regarder dans le miroir et de me dire mais Guillaume, faut que tu te casses quoi, faut vraiment que tu te casses. Et du coup, je me suis barré en me disant, faut que je trouve une boîte plus petite, à plus petite échelle, qui me parlera plus, où j'aurai plus l'impression d'avoir un impact dans la vraie vie et tout ça. Mmh. Et je suis tombé sur une offre de stage chez Bio C'est Bon, chaîne de supermarché bio. Et je me dis, j'envoie mon CV, on verra bien. De toute façon, j'étais perdu, quoi. Je savais pas trop où ce que je voulais faire, où je voulais aller. Et puis en plus de ça, autour de moi, tout le monde me dit mais c'est quand même sérieux, c'est un beau job, voilà, t'as quand même fait les études, voilà, est-ce que tu veux pas rester, voilà, attends un peu quoi, continue quoi, peut-être que c'est les 3 premiers mois qui sont difficiles. Et du coup, j'envoie chez Bio C'est Bon, je rencontre le patron qui est un mec génial qui m'a.
Mais juste, je t'arrête, mais t'avais aucune passion, quoi que ce soit, t'étais pas. Passionné par un truc, il n'y a pas un truc qui t'animait en particulier?
Non, franchement, moi c'est vraiment un conseil que je donne quand je rencontre des plus jeunes, c'est vraiment de justement de nourrir ces passions-là, de tester, de profiter de l'école, des moments où t'as pas trop de contraintes pour tester, aller au bout de ses idées, faire de la musique, faire de tout ce que tu peux faire qui te fait kiffer en fait, parce que derrière ça peut devenir un métier. Comme toi, tu me dis que t'as plein d'opportunités de podcast, je pense que tu l'avais pas spécialement prévu.
Non, c'était pas prévu.
Voilà, et c'est génial quoi. Après, à toi de décider où ça t'emmène, mais en tout cas, non, j'avais pas. En tout cas, tu vois, j'ai toujours aimé le sport, je joue beaucoup au rugby, je fais plein de trucs, mais je me disais pas que je pouvais en faire un métier. Tu vois, avec du recul, je me dis, est-ce que j'aurais dû aller bosser dans le sport, tu vois.
Et,
Et en fait, j'étais tellement dans un moule, dans une façon de penser que je... Mais je me remets, attends, je mets la faute sur moi. Hein,
c'était, ouais, bien sûr. Personne t'a obligé.
Voilà, donc j'étais comme un grand à ne pas me poser de questions, quoi. Ouais. Donc...
Donc c'est la vie. Et t'avais fait des stages à l'étranger un petit peu, t'avais voyagé ou pas ?
J'avais fait un peu de stages à l'étranger. Pour te dire, j'ai fait un premier stage en finance de marché à la BNP, donc pas tout à fait mon quotidien aujourd'hui. Mmh. Et mon deuxième stage en conseil slash audit chez Price à New York. Donc ça, c'était trop cool.
Ouais.
Surtout pour New York que pour le métier. Mais non, j'avais fait un peu de trucs. Mais c'est vrai que cette logique de me dire qu'est-ce que j'aime bien faire dans la vie, comment j'en fais un métier et qu'est-ce que je peux faire qui me fait kiffer tous les jours, je l'avais pas trop, ouais. Quoi.
Et donc t'arrives chez Bio C'est Bon.
Et donc j'arrive chez Bio C'est Bon et là trop marrant, je m'éclate, je comprends que c'est le côté entrepreneurial.
C'était quoi ton job exactement ?
J'étais chef du réseau, donc je m'occupais de recruter les gens, d'ouvrir les magasins, de faire en sorte qu'on puisse bien opérer le truc.
C'était hyper nouveau alors pour toi, non ?
Ouais, c'était hyper nouveau. Il y avait 3 magasins à l'époque et voilà, je trouvais ça cool de bosser dans le bio, de monter dans un marché qui avait du sens, qui était tout petit, qui démarrait. Et je te dis, je commandais les frigos, je recrutais un boucher. Enfin, tu vois, c'était vraiment des trucs. Où t'as pas appris et ça prend pas à l'école quoi et c'était chouette quoi, j'aimais bien le côté concret du truc et j'ai compris chez eux que je voulais monter ma boîte, que c'était ça qui me plaisait, que ça allait pas être la mienne parce que elle était déjà trop embrayée, il y avait un peu voilà, c'était déjà une boîte assez installée et puis surtout j'avais trop envie de monter la mienne et je me suis dit bon voilà, il faut démarrer tôt parce que sinon si je le fais maintenant je le ferai jamais quoi.
Ouais, c'est clair. Et le enfin, quand tu dis ça me donnait envie de monter ma boîte, qu'est-ce qui te plaisait là-dedans en fait ?
Moi, ce que j'aimais, c'est vraiment le côté super concret, quoi. Tu vois, chez Bio C'est Bon, c'est moi qui commandais les sacs avec lesquels tu sors quand t'as fait tes courses. S'il n'y avait pas les sacs, les gens qui faisaient les courses et ils pouvaient pas, tu vois, ils portaient leurs courses dans leurs bras. Tu vois, c'était vraiment concret, pratico-pratique de me dire en fait, je fais un métier qui est utile quoi dans un marché qui fait du sens, mais j'ai un métier que les gens, enfin si je suis pas là c'est gênant pour les gens, enfin tu vois mon job sert à quelque chose.
Ouais.
Et je me suis dit petit à petit sur un truc, en fait je me dis dans quel cadre j'ai envie de le faire et je me dis bah en fait j'ai envie de le faire dans ma propre boîte en fait.
Et donc t'es resté combien de temps chez Bio C'est Bon ?
Je suis resté 18 mois.
D'accord. Donc c'est long et c'est pas c'est très
ouais
court.
C'est assez court en fait. Ouais. Exactement, c'est raison, c'est long, c'est pas long. On est passé de 3 à 10 magasins, c'était trop cool.
Ouais, donc t'as bossé comme un malade.
Ouais, c'était vraiment chouette. Puis c'était en bricolage quoi, tu vois, c'était voilà, l'entrepreneuriat, moi je dis souvent et surtout dans la mode, c'est souvent pour porter des cartons. Je pense que ça te parle.
Ouais.
Et ouais, cette phase-là voilà, j'avais envie de la vivre à fond j'ai pas été déçu par la suite quoi.
D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pars au bout de 18 mois,
au bout de 18 mois, j'ai un peu fait le tour, en tout cas j'ai le sentiment d'avoir compris, d'avoir trouvé ce que je venais chercher, le concret, la vraie vie, les responsabilités, tout ça, et je me dis j'ai envie de faire ma propre boîte. Je comprends que j'aime cette liberté voilà, de faire les choses comme je veux, que ça sera pas le cas chez Bio C'est Bon et qu'il faut que je trouve une idée du coup. Et surtout voilà, je me dis putain, mais en fait chez Bio C'est Bon je comprends que les boîtes qui marchent, les entrepreneurs qui arrivent, il y a que deux trucs, c'est du bon sens et du travail. Il y a rien d'autre, tu vois, il y a pas de recette magique, c'est pas des gens avec des pouvoirs magiques, c'est juste voilà, du temps, du travail.
Et puis il y a pas de schéma.
Il y a pas de schéma.
C'est vrai que moi avec les 100 interviews que j'ai fait bientôt, en fait, il y a jamais un seul schéma. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait chacun peut écrire sa propre histoire et c'est assez rassurant.
Et moi j'encourage les gens que je vois et quitte à se planter quoi. C'est tellement c'est un moment où t'apprends sur toi, t'apprends, enfin c'est vraiment trop cool quoi. Et donc je me dis plus tu le fais tôt mieux c'est, parce que quand même ça reste une entreprise risquée, ça peut planter, tu peux perdre un peu de sous, tu peux y perdre du temps, ce qui est finalement le plus précieux. Et ouais, donc je me dis vaut mieux démarrer tôt. Et du coup je me dis je cherche une idée et je me dis plusieurs trucs, je me dis les marques de mode j'aime bien ça, j'ai toujours bien aimé ça, il n'y a pas énormément de freins à l'entrée, c'est assez relativement facile entre guillemets de lancer une marque de mode, c'est jamais très facile hein, mais c'est peut-être moins dur que dans d'autres métiers, il ne faut pas forcément beaucoup de moyens, et je me dis internet va transformer la façon dont ce métier fonctionne. Je dis souvent qu'Instagram n'existait pas à l'époque quand j'ai lancé le.
Ouais, ça paraît fou.
Hein. Ça paraît dingue. Quand tu vois le poids que ça a dans notre industrie aujourd'hui, tu te dis, clairement, le web a vraiment beaucoup changé de choses. Et je me dis, mais en fait, les sous-vêtements, c'est marrant, c'est un marché important dans lequel il n'y a pas eu beaucoup de marques sympas depuis 20-30 ans. C'est hyper adapté à la vente en ligne parce que c'est petit, c'est léger, ça ne s'essaye pas. Hein, donc c'est. Et je me dis, ouais, il y a un truc à faire. Et surtout, si je raconte une histoire de marque française, très attachée au savoir-faire, au patrimoine et tout ça, en pensant à Louis Vuitton, à Hermès, à Lacoste, à Petit Bateau, à ces marques-là. Et je me dis, si j'arrive à mélanger tout ça,
on peut faire un truc
on peut faire un truc, quoi.
Et t'as eu d'autres idées, non, j'imagine? C'était quoi les autres idées que t'as eues?
En fait, j'ai eu pas mal d'autres idées. Déjà, j'avais lancé Léon Flamme avec mon associé Louis, qui existe toujours d'ailleurs, qui est une marque de bagages d'accessoires de voyage.
Donc tout de suite après Bio C'est Bon, t'as lancé Léon Flamme.
Exactement. À un moment, je cherchais des idées, quoi. Et avec Louis, qui était avec moi chez Bio C'est Bon, je découvre cette histoire de famille, qui est que mon arrière-grand-père fabriquait des bagages pour les pilotes de l'aéropostale. Et on se lance dans une fabrication artisanale de sacs de voyage pour hommes haut de gamme. Ce qui est ultra compliqué, c'est un produit difficile, c'est un métier compliqué avec un produit qui sort assez cher, qui est difficile à vendre en ligne. Donc avec du recul, c'est difficile, quoi.
Mais ça, c'est une première expérience que tu... Ça dure combien de temps?
Ça dure, la boîte existe encore aujourd'hui, mais
tu restes combien de temps?
Full time pendant 18 mois, je dirais.
Ah ouais, donc c'est quand même un gros morceau de ta petite carrière.
J'y ai passé vraiment du temps, et après j'ai passé la main à Louis quand le slip a vraiment commencé à prendre de plus en plus de place. Et c'est vrai que
t'as lancé les deux en même temps?
Ouais, à peu près. D'accord. Léon Flamme juste avant.
Ok.
Et c'est justement en fait dans cette phase, et d'ailleurs peut-être que ça parlera à ceux qui nous écoutent, que la phase de prototypage, d'essayage, où tu fais un premier proto qui est jamais bon et tu fais un deuxième, et voilà, et c'est une phase qui est assez longue et solitaire en fait, parce que les usines à ce stade s'en foutent de toi.
T'es Mister Nobody.
Tu passes ton temps au téléphone à relancer des gens qui s'en foutent et qu'on plaint et qui sont toujours à la bourre, donc c'est assez dur. Moi, c'est vraiment la phase que je trouvais la plus dure, et en fait, comme on était sur Léon Flamme en train d'essayer de faire des protos et que c'était long, et qu'on mettait du temps à trouver les bonnes personnes et tout, c'est dans ce temps-là que l'idée du slip est arrivée, quoi. De dire, en fait, il faut peut-être aller sur un produit, un marché plus grand, un produit plus petit, plus facile, plus adapté à la vente en ligne. Et c'est venu comme ça, en fait.
Et avoir de gros projets comme ça de front, moi, ça me parle vraiment en ce moment, parce que je lance ma marque et j'ai ces histoires de podcast en parallèle. C'est quoi ta reco là-dessus?
Ma reco, c'est que c'est pas possible. Je suis désolé, hein. Je dis ce que je pense, mais de façon très bienveillante, bien sûr. Ouais, mais je pense que c'est difficile parce que, en fait, au début, tu crois que tu as le temps. Parce qu'au début, typiquement, quand tu mets au point un produit, ça te prend pas beaucoup de temps, tu as beaucoup d'échanges, tu es beaucoup dans l'attente. Donc, en fait, ce temps-là, il y a une sorte d'impatience à faire, à exister, qui fait que tu as envie de le remplir avec plein de trucs. Et en fait, quand un projet prend, et je pense que c'est ce que tu vis avec le podcast, ça te prend tout de suite beaucoup d'énergie, beaucoup de bandes passantes, comme on dit, et du coup, ça devient difficile de tout faire en même temps, quoi. Ouais. Donc je pense que au début, c'est difficile de faire vivre plusieurs trucs en même temps.
Donc tu me conseilles de dropper un des deux trucs, quoi.
Je pense qu'il faut t'identifier celui qui te plaît le plus, qui t'anime le plus, qui t'épanouit le plus. Et je crois que si j'étais dans tes pompes, je choisirais un projet.
Et comment tu choisis un projet d'ailleurs?
Moi, je pense que la boussole, c'est vraiment ce qui amuse, quoi. Ce qui amuse, ce qui épanouit, plus que ce qu'il y a sur le papier du potentiel, parce que en fait, il faut tellement du temps, de l'énergie pour le matérialiser, ce potentiel, que il vaut mieux une idée qu'on adore dans un, a priori, peut-être un marché plus petit, mais arriver à vraiment le faire, arriver à vraiment le faire vivre et devenir spécialiste de ce truc. Je pense ouvrira beaucoup plus de portes que de l'idée de génie, mais dans un truc auquel on croit moyen, qu'on aime pas trop, parce que je pense que on peut caler dans la côte, quoi. Franchement, je rebondis sur ce que j'ai vu d'Antonin sur le podcast, que j'ai vu sur Instagram, donc j'ai pas encore écouté le podcast, mais il dit que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Il a raison, quoi. Franchement, c'est dur, ça prend du temps.
Jimmy Fairly,
pardon, mais je disais quoi?
C'était Antonin de Jimmy Fairly. Tu disais le podcast, tu rebondis sur la côte qu'on a mis ce matin sur Instagram.
Et c'est très vrai, ça prend du temps, c'est difficile, donc démarrer dans un métier qui te plaît, où vraiment t'es prêt à faire jouer ta curiosité à fond, à parler que de ça nuit et jour.
Et quand t'as fait le choix, toi, entre Léon Flamme et le slip français, qu'est-ce que t'as mis dans ta liste, quoi? Qu'est-ce qui a fait peser la balance?
Pour le coup, les deux projets me plaisaient, ils étaient quand même assez proches les deux, et là c'est l'attraction, comme on dit dans ce monde des startups, j'ai pas eu le choix. C'est tellement parti vite sur le slip français que j'ai pas eu le choix que de m'organiser comme ça, quoi.
Alors raconte-nous alors ce début d'épopée, c'est incroyable.
Le début, franchement, ça date maintenant, je suis un vieux con. Le début, c'est vraiment les premiers mois, je ramène les 600 premiers slips dans le coffre d'une bagnole de location d'Angoulême à chez ma grand-mère dans le 7e. je fais un premier site web sur PrestaShop, j'envoie des dossiers de presse. Vraiment, je connaissais rien ni personne dans ce métier-là.
Alors attends, je t'arrête parce que ça me parle de ces sujets. Comment tu trouves ton fournisseur? Comment tu trouves ta liste de journalistes et comment tu les alpagues et comment tu arrives à les convaincre de parler de toi?
Bah, les fournisseurs, je tape sous-vêtements fabrication française dans Google.
Ouais.
À l'époque, page 12, je tombe sur une usine. Mais aujourd'hui, je pense que page 1, tu tombes sur des usines ou page 2.
Ouais.
Et puis aujourd'hui, il y a plus de marques qui fabriquent localement, donc c'est un peu plus facile à trouver. Mais je trouve ce fournisseur, je vais le voir, et ça c'est vraiment mon conseil.
Et
je sais pas
gens,
si ça
ouais.
te parle, mais quand tu démarres, si t'es l'énième contact qui appelle ou qui envoie un mail, bah t'auras pas de réponse. Et déjà de base, un bon entrepreneur, il va renvoyer 4 mails de suite, il va se mettre des rappels automatiques, il renvoie, et ça marche avec 100% des gens, avec les fournisseurs, avec les journalistes, avec qui on veut, de se dire en fait le taux de gens qui envoient un mail et puis derrière envoient un deuxième, un troisième. Alors, je t'ai envoyé un mail, est-ce que tu veux qu'on se voit finalement de ça? En fait, peu de gens font ça.
Mmh. Et mais tu le fais comment? Parce que tu peux vite passer pour un gros relou, quoi. Mais c'est pas grave.
Bah, tu le fais jusqu'à avoir une réponse qui te dit non, merci, je suis pas intéressé. Mmh. Mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, on n'a pas de réponse.
Ouais.
C'est vrai. Mmh. En fait, quand tu démarches, que ce soit des commerciaux, des journalistes et tout, d'avoir une réponse, ça m'intéresse pas, gros relou, arrête, tu l'as peu, en fait, voire pas. Donc je pense que moi, ma reco, c'est d'insister jusqu'à l'avoir. Et soit tu l'as, et soit je pense vraisemblablement tu auras une réponse positive de dire ah, c'est cool, on se rend compte quoi.
Mm-hmm. Et les journalistes?
Et pareil. Les journalistes, pareil. Franchement,
et la liste, tu l'as chopée comment?
Et aujourd'hui, la liste, je l'ai construite. Enfin, je l'avais construite à l'époque.
Ouais.
Contact@lemonde.fr, contact@lefigaro.fr. Donc vraiment, tous ces trucs-là, tous les ours des magazines, tu trouves tout. Et aujourd'hui, même sur Twitter et sur Instagram, aujourd'hui, tu peux écrire à tout le monde en message privé.
En DM et en message privé. Et comment tu racontais l'histoire à l'époque? Qu'est-ce qui faisait que ça leur donnait à manger? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils accrochaient, quoi?
Bah, le côté slip, ça c'est sûr. Le côté humour, ça c'est un énorme avantage pour nous. C'est un mot magique. Le slip, et je suis encore surpris 8 ans plus tard d'avoir toujours des jeux de mots que j'ai pas entendu, donc ça me fait bien kiffer. Et quand je raconte l'histoire, je montre toujours aux gens, franchement lâchez-vous parce que il y aura toujours des bonnes idées. Donc je crois que l'humour, ça a été une bonne porte d'entrée. Et après, évidemment, le côté fabrication locale, fabrication française, qui a été hyper fort depuis le départ.
Où t'étais un précurseur, vraiment.
Où on a vraiment eu un coup d'avance. On a eu 6 mois d'avance sur les monts de Bourg et tout ça. Donc, c'est sûr que ça nous a vachement porté. Et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Tout le côté sustainable, qui est un énorme mouvement et qui est assez génial. Je trouve qu'il est très enthousiasmant et on en est qu'au tout début. Et je pense qu'il y a vraiment l'opportunité pour les gens qui nous écoutent de se placer sur ce marché, quoi, de remettre tout en question les fibres utilisées, d'où ça vient, pourquoi, comment, la fédération prêt-à-porter, on en parlait dans l'autre podcast, a sorti un super guide sur les guides des appros durables. Là, il y a un monde à inventer. Mm. Ça n'existe pas aujourd'hui. Les grandes marques ne savent pas faire. Donc, allez-y, quoi. Mettez-vous à fond sur ce créneau qui, en plus de ça, est génial parce que ça fait du sens. Et...
Ouais, pour les millennials, en tout cas, la génération des 20-35 ans, c'est clair que c'est hyper excitant. Ouais. Et donc, revenons au slip français. Comment t'expliques tu l'as un peu expliqué, mais comment ça se fait que la traction est aussi importante? Quand tu parles de traction très importante, tu peux nous donner quelques chiffres?
Ouais, bien sûr. Bah, j'ai ouvert le site en septembre 2011. J'avais ramené donc les 600 premiers slips dans le coffre d'une bagnole. J'ouvre le site web et je fais 40 000 euros de chiffre d'affaires sur les 3 premiers mois. Donc c'est l'été 2011, en auto-entrepreneur, le truc bricolé total. J'allais à la poste, j'écrivais à la main les noms sur les enveloppes des gens à qui j'expédiais les slips, quoi.
Et les gens achetaient pourquoi?
Et les gens achetaient à l'époque parce que c'était rigolo. Et en vrai, mon intuition était que c'est un gros marché dans lequel il n'y a pas une marque sympa. On était une nouvelle marque sympa de sous-vêtements avec un produit qui n'est pas très engageant à acheter parce que ça vaut une vingtaine d'euros ou 30 euros. C'est moins engageant que d'acheter une veste, un jean, un pantalon. Donc c'est un produit qui est relativement facile à acheter. Et puis je pense aussi qu'on a monté avec la tendance de fond de la mode homme quand même, qui vraiment se développait avec de plus en plus de marques hommes, de plus en plus de marques hommes online et le sous-vêtement en lui-même qui devenait un achat un peu mode aussi, là où avant c'était plus quelque chose d'équipement, tu vois, où on mettait pas forcément beaucoup de valeur. Là, il y avait quand même une envie des hommes de commencer à acheter des achats de mode, quoi. Donc ça, c'est sûr que tout ça combiné fait que ça a bien pris dès le départ. Et après, deuxième année 2012, première vraie année d'existence en tant que boîte, on a fait 300 000 euros. Donc on a fait 40, 300 000 et après 900 000. Donc on a vraiment un fort décollage. Là, j'avais pas fait de levée de fonds, on a tout bricolé, on faisait un peu de tout, on a fait une estafette l'été sur les plages, on a eu les galeries Lafayette qui sont venus nous voir, on a fait du web, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour ce que font aujourd'hui sûrement les gens qui nous écoutent pour essayer de se faire connaître, quoi.
Ouais, le couteau entre les dents et là tu tapes à toutes les portes, etc.
Exactement.
Et à ce moment-là, il faut vraiment avoir cette passion, il faut avoir ce feu de toute façon, il faut aller dans tous les sens, non ?
Ouais,
qu'est-ce que tu conseilles, toi ?
Bah, bien sûr, et en fait, surtout, souvent dans notre métier, quand même, on achète le stock, on a ce fameux BFR, donc on a des factures à payer de fournisseurs, tu prends un risque sur une première collection, donc en fait, tu n'as pas trop le choix, quoi. Donc, et souvent, c'est tes fonds propres, ou alors tu as emprunté un peu de sous à ta grand-mère ou à ta tante, donc faut y aller, quoi. Et moi, j'avais ces slips dans le garage, et oui, je me dis,
il faut les vendre,
ouais. Ouais, j'ai pas envie de perdre les sous que j'ai mis là-dedans, et puis même, j'ai envie que ça marche, quoi. Donc, donc oui, faut y aller. Et aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux et Internet, c'est tellement un terrain de jeu de dingue qu'il y a quand même beaucoup de façons d'arriver à émerger, je pense.
Et tu pensais à l'échec pendant ces périodes-là?
Pas vraiment. Je me suis dit, de toute façon, au pire, j'aurai des slips pour toute ma vie, tu vois. J'avais conscience de pas prendre un énorme risque. Et avec du recul, je me dis, le risque était encore plus faible que celui que j'imaginais à l'époque. Enfin, en vrai, le risque, c'est de faire un métier qui te plaît pas, de pas s'épanouir, d'être malheureux, de regretter les choses, quoi. Mm-hmm. Et je pense que démarrer, c'est l'avantage de notre métier, c'est que démarrer une marque de mode, franchement,
ça coûte pas énormément.
Aujourd'hui, ça coûte pas énormément d'argent, quoi.
Ouais. Même en com et tout, avec les réseaux sociaux,
exactement.
Et si t'es
gratuitement,
un peu malin,
tout le monde a un pote graphiste, tout le monde a un cousin qui fait de la vidéo. Donc en fait, arriver à faire un truc qui tient la route avec une première campagne de financement participatif et t'as peut-être même pas payé ton premier stock à ce moment-là, c'est quelques milliers d'euros. Donc
il faut pas s'en priver.
Je pense qu'il faut essayer.
Carrément. Et un truc dont les entrepreneurs parlent pas souvent, c'est donc au début toi tu pars avec 10 000 balles, mais ton quotidien au début, tu vis de quoi, tu vis où, tu manges quoi, parce que c'est quand même un sujet que personne veut en parler.
Ouais.
Et je pense que souvent les gens ont oublié ces moments-là. Et je pense que la conscience et l'esprit, en tout cas, on oublie ces passages un peu compliqués.
Écoute, moi je l'ai dit, le plus dur pour moi c'était les 9 premiers mois, le moment où je me suis dit allez vas-y, je me lance. Donc je suis plus chez Bio C'est Bon, je me dis ok, je lance une marque de slip où j'ai pas de produit, j'ai pas de carte de visite, j'ai pas le logo, j'appelle des fournisseurs qui décrochent pas, donc vraiment là c'est dur, quoi. Et tous les matins je me dis mais en fait qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi.
T'es parti avec une rupture conventionnelle quand même,
et du coup je suis parti, et ça c'était un vrai, tu vois, ce qui relativise aussi l'échec, je suis parti avec une rupture conventionnelle chez Bio C'est Bon, et ça c'est vraiment cool puisque j'avais pas encore cotisé 24 mois parce que j'avais pas bossé assez, mais du coup j'avais 15 ou 16 mois devant moi d'allocation création entreprise, et ça c'était trop cool. Et aujourd'hui moi je recommande évidemment à tous ceux que je croise de faire ça. Il faut soit bosser un peu avant, et trouver une entreprise qui comprend cette logique-là. Mais je pense que dans les boîtes, ça change pas mal. Et aujourd'hui, les ruptures conventionnelles sont plus faciles à obtenir. Les gens comprennent que chacun a envie de tester différentes choses, quoi. Et je pense que c'est épanouissant pour tout le monde. Donc oui, en tout cas pour moi, c'était évidemment un super atout. Et je recommande à ceux qui peuvent le faire de le faire, parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que le temps passe très vite, quoi. Et tu passes très vite du coup, t'as un peu d'alloc pendant 15-16 mois à t'as pas de salaire. Et là, les choses se compliquent vite, quoi.
Mais t'as pas été confronté à ça parce que ça a tout de suite fonctionné finalement.
Ouais, les allocations se sont arrêtées. On était en train de commencer à avancer sur la première levée de fonds. Je savais que j'allais à ce moment-là pouvoir me payer un vrai salaire. Mais j'ai eu 6-8 mois où il fallait pas que le trou dure plus longtemps, quoi.
Première levée de fonds, on va peut-être pas trop en parler parce qu'on en parle beaucoup dans un autre épisode, mais raconte-nous un peu les différents milestones, les premières recrues, les moments où tu sens que t'as passé un palier. Alors j'imagine que la levée de fonds, ça en fait partie, donc parlons-en un petit peu quand même, tu vois, mais raconte-nous les différents milestones.
Écoute, y a vraiment une première phase qui dure 2-3 ans avant la première levée de fonds où là on bricole. On fait tout, comme je te le disais. On ouvre une première boutique dans le Marais, ou pareil, on emprunte à la banque. Et là, je mets caution perso sur pas mal de choses. Donc, si tu veux, le niveau de risque et d'échec, là, il commence à se faire sentir un peu plus palpable.
Parce que tu risques quoi dans ces cas-là?
Tes cautions perso. Donc, je suis monté jusqu'à 600, 700 000 de cautions personnelles. Donc, tu plantes la boîte.
T'es endetté pour un bout de temps.
Et là, tu vois, c'est plus 10 000 balles, quoi. C'est
600, ouais.
Et là, je pense que ça peut te rester longtemps, quoi. Ouais. Donc là, c'est aussi ça qui m'a fait aussi aller vers la première levée de fonds et sécuriser un peu l'histoire. C'est que, après, c'était un montant important parce qu'il y avait une première boutique avec un pas de porte. Donc, tu vois, je me dis toujours,
ça se revend,
une boutique rue de Vieille du Temple. Ça vaut des sous quoi qu'il arrive.
Ouais, mais il faudrait qu'il y ait un effondrement de l'économie ou une guerre.
Tu commences à empiler un peu les briques sur ton Jenga et tu te dis
Qui serre les fesses.
Ouais, exactement. C'est pas toujours facile, quoi. Donc ça, c'était la première étape. Et donc, du coup, cette première levée de fonds, moi, j'y suis allé parce qu'on pensait qu'il y avait vraiment du potentiel, qu'on avait besoin de financer le stock, et que si on voulait que ça continue à devenir une boîte ambitieuse, j'avais pas trop de choix. Et ça, je le dis toujours à ceux qui se lancent, si vous arrivez à trouver une autre façon, un autre modèle, on a raison, dans notre métier, je pense que c'est pas évident de passer à côté de l'étape stock, quoi. Donc, dans notre métier, c'est pas évident, mais il y a d'autres métiers où t'en as moins besoin. Mais en tout cas, clairement, ça a été une étape, et à partir de là, on est vraiment devenu un peu plus start-up, justement, à recruter des gens, à recruter des profils. Et du coup, ça a été une deuxième phase où là, recruter les bonnes personnes, arriver à intégrer des gens, à grandir, à ce que mon rôle à moi change. Enfin, ça, c'est pas des moments faciles.
Comment tu t'es formé d'ailleurs, toi? Je pense que tu t'es épaissi d'une façon incroyable, non?
Je te remercie. Quelques années. Je rentre plus dans mes fringues, c'est ça? Je rentre plus dans mon style.
Non, mais j'imagine que vivre tout ce que t'as vécu. Non, moi, il y a un truc qui m'impressionne surtout, c'est ta prise de parole. Enfin, t'es devenu une machine de guerre, quoi. En média training, enfin, en tout cas, en prise de parole dans les médias. C'est incroyable. Tu t'es fait accompagner là-dessus pour progresser?
Ouais, c'est pas vrai. Si, un peu. Au début, non. Alors déjà, j'aime bien ça. J'aime bien partager. Et en fait, c'est effectivement ma façon d'apprendre, en fait. Moi, au début, j'avais pas spécialement d'investisseurs, et même les investisseurs, ils t'apportent des choses, mais ils t'apportent pas tout. En fait, moi, ma façon d'apprendre, c'est vraiment d'écrire, un peu comme on s'est écrit il y a un petit bout de temps déjà, mais d'écrire à plein de gens en disant c'est trop cool ce que vous faites, est-ce qu'on peut se rencontrer, tu vois. Là, j'ai écrit ce matin à The Others, je sais pas si tu vois, qui est un média sur l'outdoor. Oui. Qui est pas forcément dans mon métier, mais je trouve qu'ils font trop bien. Boum, et ce que j'ai dit tout à l'heure, je leur écris sur Instagram ou sur Twitter. Salut, c'est trop bien ce que vous faites. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Ça marche ou pas? Mais 95% du temps, peut-être pas, mais 80% du temps, ça marche. Et du coup, tu rencontres des gens qui te racontent leur histoire, leur parcours. Tu te dis, putain, ça c'est malin, je le ferai bien chez moi. Là, là, là. Et ça donne plein d'idées de collab. Moi, c'est vraiment comme ça que j'apprends, en fait, en rencontrant toutes les initiatives que je trouve cool.
T'as systématisé ce truc-là, parce que j'ai l'impression
j'ai un peu processé la rencontre avec des gens.
Ouais. Parce donc que c'est café, déjeuner, tout le temps.
Exactement.
Ouais.
Exactement. Et je pense que c'est mon job aujourd'hui. Ça l'est devenu de plus en plus. Mais je prends vraiment beaucoup de plaisir à ça. En fait, moi, c'est ma façon d'apprendre. Et quand tu racontes ta façon de faire à quelqu'un qui est pas de ton métier ou pas exactement sur le même positionnement et tout, en fait, toutes les choses apparaissent différemment. Et du coup, tu peux te rendre compte des trucs que tu fais plus ou moins bien et progresser, quoi.
Ouais. Et cette prise de parole, t'as toujours été à l'aise, toi, sur la prise de parole?
Écoute, ouais. Vraiment ce côté au début où je me rendais compte que dans ce sujet du Made in France, où les journalistes cherchaient des exemples à raconter et tout, du coup, ils me posaient des questions un peu plus économiques, un peu plus politiques, de dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça veut dire d'industrialiser en France, qu'est-ce que vous pensez du CICE, hein, tu vois, des trucs comme ça. Et je me dis, bon, écoute, je connais pas trop le sujet, mais on me propose de passer sur France 2, bien sûr que j'y vais parce que ça va faire du trafic et ça va faire permettre de vendre nos slips, quoi. Donc, en fait, j'ai vraiment intégré ce truc
très tôt.
Passage média égale trafic qui égale vente égale un peu plus de souffle face à mes 700 000 balles de caution personnelle, quoi. Donc il y a ça, et puis après t'apprends avec le temps. Et
qu'est-ce que je conseille, c'est qu'il faut y aller, quoi.
Il faut y aller. Et puis aujourd'hui, si tu veux, il y a de plus en plus de formats, tu vois. Il y a beaucoup de médias qui ont des formats vidéo sur Instagram, en live et tout. Et en fait, je pense qu'il faut y aller, quoi. Faut dire, enfin, et moi, je dis ce que je pense depuis le début. Je suis assez naturel. Donc, c'est ça aussi qui fait que.
Ouais, c'est pas très compliqué, finalement.
Voilà.
Ouais,
et je pense que. Et je pense que ça fait un peu partie aussi des qualités qu'il faut en tant qu'entrepreneur. C'est que si t'es pas capable, tu vois, de raconter ton projet et d'embarquer les gens, ça va être
compliqué.
Ou alors, il faut trouver un associé qui peut le faire, quoi. Mais.
Toi, tu t'es pas associé sur le slip, hein.
Non. Non, c'est un peu bizarre la façon dont c'est venu, donc ça s'est fait comme ça. Mais
depuis, t'as intéressé quand même tes salariés?
Ouais, depuis il y a une vingtaine de personnes au slip qui sont intéressées au capital de la boîte.
Ouais. Et ça a vraiment... Tu penses que c'est primordial? Tu le referais? Tu le referais pas?
Je pense que c'est clé. Je pense même qu'on l'a pas forcément fait assez. Et là, c'est une discussion avec les fonds d'investissement derrière, parce que tu peux le faire un peu, mais après, c'est forcément en accord avec tes autres actionnaires. Mais oui, je pense que c'est clé pour fidéliser les gens. Enfin, quand on bosse beaucoup, quand on s'implique, on a besoin de sentir que c'est aussi un peu notre bébé, quoi. Et je le comprends, et on a mis en place très tôt, et je trouve ça normal. Donc, je pense que c'est clé pour que les gens restent, et surtout pour que les gens se mettent eux-mêmes dans cette logique d'apprentissage, en fait. De dire, en fait, je veux apporter à cette boîte, je veux grandir, je suis prêt à aller voir d'autres gens. En fait, la démarche de d'apprendre, elle est pas facile, elle remet vachement en question quand tu vas aller apprendre d'autres métiers, rencontrer d'autres gens et tout ça, ça remet en question parce que forcément c'est pas facile. Donc t'es pas très à l'aise avec le truc, mais si tu dis bon ok je le fais pour la boîte parce que voilà je fais partie de l'équipe qui est incentive au capital, bah ça fait du sens pour moi et je vais rentrer positivement dans cette démarche de moi j'incite tout le temps les équipes à aller voir d'autres marques.
Rencontrer d'autres marques
et dire ok bah sur Facebook quand vous faites, sur le site quand vous faites, en boutique quand vous faites, et c'est pas hyper naturel, je pense que tout le monde fait pas ça, mais forcément il y a des moments où tu dis putain ils sont trop forts, nous on est trop nazes et c'est chiant, mais c'est ça qui fait grandir quoi. Et je pense qu'avec des gens qui sont impliqués au capital, bah ça fait du sens. Et moi il y a un truc dont je suis assez bluffé, c'est la capacité de progression des gens dans notre équipe. C'est à dire que moi j'ai plein de gens qui sont là depuis 4, 5, 6 ans qui sont entrés en stage de fin d'études au SLIP. On est parfois leur première et seule expérience professionnelle. Et aujourd'hui, ils sont solides, quoi. Et on les voit quand on compare à d'autres marques. On dit, bon, bah, on apprend des trucs, mais là-dessus, je pense qu'on n'est pas mauvais, quoi. Et ça, c'est assez. Enfin, je pense que c'est assez précieux pour eux et bien sûr pour la boîte.
Comment à quoi ça ressemble tes journées? Enfin, comment c'est schématisé dans ta tête? Pour quand t'es chef d'entreprise, tu dois gérer tellement de choses, tu dois continuer à apprendre et rencontrer tellement de gens. Tu me dis que t'as systématisé tes cafés, tes déjeuners avec d'autres personnes. Concrètement, qu'est-ce que tu gères au quotidien et comment ça s'organise dans ta tête, quoi, et pour pas que t'exploses en plein vol.
Ça prend du temps, mais déjà ça a pas mal changé. Aujourd'hui, j'ai une équipe trop cool sur laquelle je m'appuie beaucoup. J'ai une directrice générale avec un comité de direction de 9 personnes et presque 10 personnes maintenant. Donc j'ai une attaque de moineaux.
Ouais.
Donc je m'appuie beaucoup sur une équipe pour au début, et là-dessus, il y a un article qui est très bien fait qui s'appelle « The Second Job of a CEO », qui est un article dans le Y Combinator, qui est un incubateur à San Francisco. Donc, vous tapez, ceux qui nous écoutent, vous tapez « The Second Job of a CEO », et en fait, il décrit une première phase où le CEO donne son avis sur tout, le bleu, le vert, les couleurs, il est impliqué sur tout, sur toutes les décisions, et au fur et à mesure, son job change de ne plus faire les choses, mais de construire l'équipe et la boîte, et de leur dire, voilà, d'essayer de participer à où est-ce qu'on va, et tout ça.
Et c'est à quel moment que tu fais ça?
Et ils disent dans l'article que c'est à partir d'une 40, 50 personnes que ce rôle-là commence vraiment à se mettre en place, même, tu vois.
C'est pas au bout de 3, quoi.
Non, c'est pas tout de suite. Non, au début, il faut tout faire, et c'est ça qui est bien, on apprend tous les métiers.
Cool, hein.
Mais au début, tu fais tout, tu te poses pas trop de questions, tu fais tout, et puis après, tu essaies de t'organiser pour remplir tes missions clés. Moi, aujourd'hui, mes missions clés, c'est un, la vision de la boîte long terme, où est-ce qu'on va, quelle histoire qu'on raconte.
Et où est-ce qu'on va alors? Où est-ce qu'on va avec ce style français?
On va changer le monde, et en fait, souvent la vision, elle est dans les ce qui se fait les premiers jours de la boîte, et nous, c'est vous voulez changer le monde, commencer par changer de slip. Au début, c'était une blague, et aujourd'hui, moi, je veux qu'on devienne le Patagonia français, qu'on devienne la boîte un peu comme Veja, qui arrive à faire le produit de mode à l'impact le plus positif possible. On est sur une catégorie produit où il n'y aura pas trop de seconde main, pas trop de vintage a priori. Donc, moi, je veux faire le produit qui est fabriqué localement, durablement, avec des matières innovantes et qui arrive à dire « Ok, voilà, notre produit n'a pas ou plus ou peu d'impact carbone. » Et du coup, on est la meilleure alternative à un produit d'équipement que vous allez racheter, dont vous avez besoin. Et là, je me dis que c'est fort, quoi. Si on arrive à faire ça, ça a vraiment du sens, quoi.
Et vous en êtes loin de ça, tu penses?
Et écoute, on est bon sur la partie sociétale. On fabrique tout en France locale. Sur la partie durabilité, on a évidemment plein de choses à faire.
Quoi, c'est quoi? C'est des fibres recyclées?
Ouais, c'est ça, recycler du coton, faire que tous les packaging soient sustainable, arriver à récupérer des anciens vêtements auprès de nos clients, enfin, tu vois, rentrer dans une vraie économie circulaire. Et ça, c'est
très difficile.
C'est très difficile parce que ça n'existe pas. Mais en même temps, c'est trop cool. C'est-à-dire qu'il y a des vraies opportunités.
T'es un défricheur.
Et c'est trop cool. C'est trop cool. Et je pense que c'est une vraie vision de la mode différente, mais qui est mondiale, en fait. Et aujourd'hui, ça n'existe pas, enfin nulle part. Tout le monde parle de Patagonia comme le bon exemple, mais
il n'y en a pas d'autres.
Il n'y en a pas d'autres.
Ouais.
Donc là, je pense qu'il y a vraiment des places à prendre, et nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc ça, mon job, c'est d'arriver à formaliser ça et à embarquer tout le monde dans cette vision long terme-là. Du coup, vérifier on met les bons fondamentaux pour aller vers ça. Ensuite, c'est de représenter la boîte, la mission 2, auprès du grand public, auprès de la presse, auprès des journalistes et auprès de nos investisseurs aussi.
Et ça, tu dis oui à tout?
Non, je fais le tri, ouais. L'idée, c'est de pas être non plus tout le temps partout, donc voilà. De choisir les projets qui nous parlent.
Merci alors d'avoir dit oui.
Tu rigoles, avec plaisir. Et derrière, ma troisième casquette, je dirais, c'est vraiment de m'assurer que la vie au slip est comme je l'imagine, de mettre en place les bonnes équipes, les bons garde-fous, vérifier les recrutements clés, vérifier qu'on fait bien les choses pour...
C'est quoi les garde-fous, par exemple? Pardon, je te coupe. Je déteste couper les gens.
Ouais, t'inquiète pas. Les bons garde-fous, c'est vérifier que voilà, on arrive à faire des choses sympas entre nous, même si c'est pas toujours au budget, qu'on arrive à faire des trucs sympas au bureau, qu'on se prenne pas la tête, qu'on puisse rester comme on l'est au début quand on est quatre dans un bureau, même si aujourd'hui on est 110 personnes et que du coup, forcément, il y a plus d'enjeux, il y a plus de difficultés dans le métier. Donc, arriver à garder cette simplicité et je crois ce plaisir de travailler tous ensemble qui a 110 personnes est plus difficile qu'à 4 ou 5.
Ouais, c'est clair. Alors, la question que je me pose et que je me suis toujours posée, c'est comment on fait pour continuer à grandir quand on a à la fois Slip et Français dans le nom de sa marque? Comment t'attaques l'étranger? Comment tu changes? Enfin, comment tu t'apportes d'autres produits dans ta gamme, etc., etc. Est-ce que finalement la clé de ton succès, enfin une des raisons de ton succès, c'est pas aussi une des raisons de la limite de la croissance de la boîte?
Écoute, c'est une bonne question. Je pense que la réponse à ça, sur les deux plans, sur la catégorie produit et sur l'international, c'est vraiment la durabilité et le côté sustainable. En fait, la démarche, elle a beaucoup de sens et c'est depuis le début, c'est elle qui a porté le produit presque, et de dire en fait sur les catégories produits, on a lancé de la maille et en fait c'est des pulls qu'on fait avec Saint-James en Normandie et qui sont trop cool, et on est les seuls à fabriquer des pulls en France avec une traçabilité complète, avec un super produit que tu vas acheter, qui est un vrai permanent qui va durer 50 ans. Et aujourd'hui tu peux trouver tous les pulls que tu veux dans le marché, mais voilà, un pull Saint-James, il n'y a pas beaucoup d'équivalents en termes de qualité. Donc, donc nous, notre parti pris, c'est ça, c'est de se dire on va sortir sur d'autres catégories, encore qu'on ne veut pas aller dans toutes les catégories, on veut rester sur des catégories qui sont très web, dans cette idée de catégorie d'équipement, d'intime en fait, parce que c'est notre cœur de métier et qu'on pense que voilà, c'est une catégorie d'équipement dont les gens auront toujours besoin et qu'on a très envie de les fabriquer de la meilleure manière possible. Et aujourd'hui, on fait plus que 50% de nos ventes en sous-vêtements. Donc, on est déjà pas mal sorti de ça. Mais la vraie sortie, c'est par le savoir-faire, par l'histoire, par le Made in France, par le local. Voilà, d'arriver à remonter les filières et d'arriver à proposer un vrai produit cool sur d'autres catégories. Donc, ça, je pense qu'on y arrivera. Et après, nous, notre gros chantier avant l'international, c'est la femme, en fait. Parce que ce qui est assez rigolo, c'est qu'on fait la moitié de nos clients sont des femmes qui jusque-là achetaient des produits pour mecs. Et aujourd'hui, on a une offre pour femmes qui grandit, et sur ces mêmes thématiques de durabilité, de local, de produits 100% made in France, de dire en fait, il y a des femmes qui connaissent la marque, qui aiment bien et qui voulaient acheter des sous-vêtements.
Mais les femmes sont sensibles à ça?
Et les femmes sont
plus que les hommes?
Plus ou moins, j'en sais rien, mais en tout cas, elles y sont sensibles, ça c'est sûr. Et donc, nous, on a une vraie opportunité de marcher sur la femme, et c'est vraiment ce qu'on veut creuser d'abord. Et après, sur l'international, pardon, pour finir à répondre à ta question sur la femme, le côté slip français, on se demandait si ce serait une limite pour la femme, et en fait, les femmes qui viennent chez nous disent, mais en fait, ce qui est marrant chez vous, c'est qu'il y a une vraie liberté, une vraie modernité, justement, dans la place de la femme, de dire, c'est une marque de lingerie où il n'y a pas ce côté.
Séduction
un peu cliché, placardé, qu'on connaît, qui a un peu vécu, mais au contraire, il y a cette modernité de venir acheter de la lingerie pour femme avec son mec, qui rentre dans la boutique et qui est pas gêné lui non plus parce qu'il va s'acheter ses slips, et ça, c'est assez nouveau. Et donc, ça, on aime bien. Et du coup, le côté slip français est pas un frein pour les femmes, et ça, c'est cool. Et après, sur l'international, on se dit, aujourd'hui, on fait un petit 10% de nos ventes à l'international. C'est cool. On n'y a pas mis beaucoup d'efforts. On
voulait faire pas acheter
dans l'ordre. Mais on se dit, demain, est-ce qu'il n'y a pas une vision un peu nouvelle dans cette idée de local et de durable, encore une fois, de dire, typiquement, le coton, ça pousse aux US. Est-ce qu'il n'y aurait pas une marque française qui fabrique localement aux US, mixée avec des savoir-faire américains pour appliquer notre modèle d'économie circulaire aux US, mais le modèle aurait été inventé en France, quoi, et dire, finalement, c'est peut-être ça, le slip français aux États-Unis, quoi. Et du coup, c'est pas au plan pour tout de suite, mais on a vraiment des réflexions de fond de se dire, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un côté peut-être... parfois contresens de vouloir aller exporter un même produit partout dans le monde alors qu'on veut faire un produit local et durable. Et ça, je pense que c'est une vraie question pour l'industrie, plus largement que pour nous, quoi. Si on se projette dans une mode durable, est-ce que ça a du sens de fabriquer le même produit pour le vendre partout dans le monde à l'identique? Je suis pas sûr.
Toi, tu as une approche quand même très produit et pas mode, pas trop mode. Enfin, je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs ouais, de sûr. Ça. Et je pense que c'est complètement assumé et tu n'as aucun problème avec ça. Mais la mode a vraiment beaucoup de mal à passer le pas du sustainability. Ils ont beaucoup de mal à en parler, etc. Qu'est-ce que tu leur dis quand une marque très mode vient te voir et ils te posent la question, mais comment il faut qu'on en parle, etc. Est-ce que ça arrive déjà?
Non, ça arrive pas. Et c'est vrai que moi, je me demande si c'est un sujet qui travaille, puisque d'extérieur comme ça, en creusant, j'ai pas forcément l'impression. Mais parfois aussi, ces marques-là, voilà, mettent des moyens importants pour travailler sans forcément que ça se voit à la suite. Donc, ça m'étonnerait qu'ils travaillent pas la question. Mais pour moi, la vraie réponse à cette question, c'est le client, en fait. C'est de dire, en fait, qu'est-ce que veut le client. Et quand tu vois le succès d'un Yuka dans l'alimentaire ou dans le cosmétique, je vois pas comment c'est possible que ça ne soit pas la même chose dans la mode, en fait. Et il y a des applications comme Good On You, comme Closeparency, qui arrivent en France, qui feront ce boulot-là d'arriver à faire le tri dans les marques. Et donc, en fait, si c'est pas forcément une conviction des marques, ça deviendra une demande de leurs clients. Et là... Et là, ils n'ont plus le choix puisqu'ils doivent y aller.
Vous avez senti le truc venir est-ce que dans les commentaires, est-ce que dans les messages que vous recevez, il y a de plus en plus de gens qui vous disent mais
ouais,
creusent quoi.
Ouais, les gens sont sensibles. Les gens sont sensibles. Après, je pense que ça, c'est plus une réaction positive à quelque chose qu'on propose plus qu'une demande. Et c'est peut-être ça qui fait que les grandes marques n'y vont pas forcément tout de suite ou n'y sont pas encore allées. C'est qu'il y a la demande, elle n'est pas encore forcément très perceptible, mais par contre, la réaction positive à ce qu'on fait, dire « Ah, c'est super, merci de mettre ça en avant. » Tu vois, sur la journée no plastique dernièrement, on suit des gens sur Instagram qui font un tour du monde d'initiatives pour lutter contre la pollution du plastique dans les océans. Les gens trouvent ça trop cool qu'on s'investisse sur ce sujet-là, qu'on propose bientôt des maillots de bain en matière recyclable à base de plastique. Ça, les gens les trouvent cool, mais on fait pas ça parce qu'on a reçu plein de mails de gens qui nous disent mettez-vous.
Ça, c'est de la conviction personnelle, quoi.
Ouais, c'est de la conviction d'entreprise, quand même. Ouais. Au-delà de personnel, mais oui, t'as raison.
Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que t'es une mode de comment? HEC, tu sais,
l'école de commerce,
ouais.
Bah, je leur dis que c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais pas m'inventer designer, hein. Mais oui, je pense que on apporte des idées, des solutions sur certaines choses qui sont clairement différentes. Et je pense que je le vois, tu vois, les Opal, les 1083, les marques qui fabriquent en France et qui remettent un peu tu vois, qui essaient de penser différemment, sont souvent des gens qui sont pas forcément issus d'une formation mode ou du parcours plus classique de mode. Et je dis pas que c'est bien, mieux ou moins bien, je dis juste que effectivement, nous on essaie de faire des choses comme on pense juste et en tout cas avec du bon sens, de se dire fabriquer localement, essayer de mettre des fibres durables là-dedans, on se dit que ça fait du sens et qu'on a envie de le faire, en fait, sur tout ça. Donc, mais après, je suis sensible à plein d'univers créa et jaloux parfois de me dire j'aimerais bien avoir la capacité à faire des jolies choses comme un Jacquemus, un ami. Voilà, je regarde, je me dis je suis pas capable de faire ça.
Tu les connais, tu parles avec eux?
Je les connais, je les ai croisés, c'est quand même, ça reste un petit monde. Je les ai croisés c'est toujours des gens sympas. Après, on se connaît pas très bien, mais je suis conscient de pas forcément appartenir au même monde. Mais
c'est comme ça, c'est
la vie. Mais je pense que l'avenir de notre métier, et d'ailleurs le binôme un peu école de commerce et créa, tu regardes Saint-Laurent, il y a beaucoup de maisons où ce métier a fonctionné. Et je pense que ça va de plus en plus vers ça, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un métier qui est compliqué, il y a beaucoup de compétition, le financement, le web, et je pense que les gens qui écoutent ton podcast se rendent bien compte de ça, de la difficulté de ce métier. Aujourd'hui, trouver quelqu'un qui est très fort dans tout, à la fois créa et en même temps businessman, ou businesswoman, c'est compliqué, quoi. Donc je pense que trouver une association de quelqu'un de plus créatif sur le produit, sur l'univers, la DA, et quelqu'un de plus business, je pense que c'est riche.
Tout à l'heure, tu disais que
j'appelle Jacquemus, il m'écoute, je veux bien faire une collection sustainable avec lui sur n'importe quel sujet.
Ça aurait du sens, non? Simon, si tu nous écoutes, à bon entendeur. Tu disais, pour te nourrir, tu rencontrais beaucoup de gens, mais qu'est-ce que tu regardes d'autre pour te nourrir?
Écoute, donc je rencontre beaucoup de gens effectivement dans plein de métiers. Ça, j'aime bien. Je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. Et après, j'essaie de regarder beaucoup de docu. Ça, c'est vraiment une source et d'inspiration et d'énergie. Sur Netflix, il y en a un qui est trop cool qui s'appelle The Defiant Ones, que je cite souvent.
Ça, c'est fou. Ouais.
Complètement dingo. Et tu vois, c'est pas spécialement notre métier, mais c'est l'histoire de Dr. Dre et de Jimmy Iovine, qui sont deux producteurs de musique aux US entre les années 70 et récemment. Et en fait, tu te rends compte, tu vois l'histoire des mecs, tu te dis, mais en fait, eux, ils ont traversé ça, ils font ça. Tu te dis, mais toi, quand t'as un peu peur parce qu'un fournisseur t'a pas répondu ou que ton proto n'est pas la bonne taille, tu te dis, mais t'es un enfant de cœur, en fait. Donc, vas-y, remonte les manches et t'inquiète pas, ça va bien se passer, quoi. Ouais, je trouve que ça fait du bien, tu vois, de prendre des coups de pied au cul d'inspiration par des trucs comme ça.
T'as lancé une série, une web série, J'y vais, mais j'ai peur, qui est vachement bien et que je conseille à tous les auditeurs d'aller voir, parce que c'est hyper riche et moi je me le suis tous fait, et même pour préparer mes interviews parfois je me replonge dedans parce que c'est hyper bien structuré. Pourquoi t'as fait ça?
D'abord parce que ça m'amusait. Je crois que c'est peut-être la meilleure réponse. Et ensuite on s'est quand même dit YouTube c'est une plateforme de dingue, c'est deuxième plus gros trafic. C'est vraiment, il y a beaucoup de trafic là-dessus. On n'a pas de contenu bien. On a, si on met encore le même contenu qu'on a vu ailleurs, qu'on fait un peu une étagère à vidéo, ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on a comme contenu dans ce qu'on fait qui peut être intéressant ou lesquels les gens seraient susceptibles de s'abonner pour revenir chez nous et faire de la visibilité pour la marque? Et je me suis dit, en fait, je passe beaucoup de mon temps à prendre la parole dans des conférences, dans des ateliers avec des gens très variés, et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et je me suis dit, en fait, souvent, ce que je raconte, il va être écouté par 10-15 personnes qui sont dans la salle, et puis il ira pas au-delà. Et c'est dommage parce que souvent je dis un peu la même chose, et puis souvent les gens ont les mêmes questions. Et je me dis, si j'arrive à le capter, à le mettre en vidéo dans un format qui est partageable, ça peut être cool. Et du coup, je me suis dit, ça peut cocher beaucoup de cases, et surtout ça m'amuse de le faire. Et du coup, j'ai vendu l'idée à 2-3 personnes chez moi qui m'ont aidé. On a fait 9 vidéos qui sont sympas, et puis peut-être d'autres à venir. Mais avant tout, ça m'amuse.
Sans tout ce que tu fais, faut que ça t'amuse.
Je pense que c'est important.
Je pense que ça, c'est un bon critère pour faire les choses. C'est quoi la question qu'on t'a jamais posée et que tu voudrais qu'on te pose?
Que je voudrais qu'on me pose?
Ouais.
C'est une bonne question, tu vois. Parce qu'il faudrait que la réponse soit utile quand même aux gens. Ouais, mais la question de ce matin est pas si bête, quoi. Est-ce que c'est difficile? Tu vois, vraiment sans langue de bois. Et oui, c'est vraiment difficile de dire monter sa marque, c'est génial, mais c'est vachement difficile. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Mais si c'était à refaire, je le referais, sans hésiter.
C'est clair. Toi, enfin, t'as
c'est pas si clair que ça, tu vois.
Ah ouais?
Ouais. Ça, voilà, je peux le dire. Si c'était à refaire, tu vois, si on te dit, OK, aujourd'hui, est-ce que t'es prêt à repartir 8 ans en arrière? Je te donnerais pas tu vois, je te dirais pas, ouais, c'est clair sans hésiter.
Ah ouais?
Non. Pour te dire à quel point tu vois du pays, parfois, je me refais la liste de tous les trucs par lesquels on est passé. Je me dis, faut être accroché, quoi.
Parce qu'il y a des moments où tu étais vraiment dans le désespoir le plus complet.
Il y a des moments où tu dois 100 000 balles à des fournisseurs. Ça fait déjà 2 semaines que tu fais un peu des claquettes. Et là, tu sais qu'il y a un passage télé qui arrive qui va permettre de débloquer 2-3 gros trucs. T'as un gars à Lafayette ou un printemps qui traîne un peu sur une facture qui te doit. La banque qui débloque pas. T'as force de conviction pour te dire ça va y aller, quoi. Les banques qui débloquent des trucs toujours 15 jours trop tard. Enfin, c'est difficile. C'est difficile. Donc, tu vois. C'est peut-être ça la question, de dire est-ce que c'est... Je répondrais oui, mais pas... je prendrais le temps de réfléchir.
C'est pas franco, ouais. Et tu ferais quoi d'ailleurs si tu faisais pas ça?
C'est une bonne question. Moi, j'ai un... Je n'aurais pas le courage de le faire, je crois. Je suis peut-être trop peureux, mais en même temps, c'est pas un métier facile. J'ai toujours rêvé d'être reporter de guerre. Donc les gens qui vont...
sur le front, hein.
Ouais, couvrir les conflits avec leur appareil photo... j'ai beaucoup lu Joseph Kessel, j'aime bien Robert Capa et ce genre d'univers-là. Et tu vois, typiquement, c'était le 6 juin 44 et il parlait beaucoup de l'univers de Capa, des reporters de guerre et tout ça. Et c'est un métier de... de fou, quoi. Enfin, vraiment de fou au sens premier, où ils risquent leur vie pour aller raconter.
Pour couvrir le truc.
Ouais. Pour couvrir le truc. Et je me dis, c'est un truc qui m'a toujours vachement impressionné, marqué, et dont je serais, enfin, que je suis pas capable. Je crois que je suis pas assez, j'ai pas le courage de me dire que. Alors que tu vois, je me dis, mais Guillaume, t'arrêtes pas de dire que tout est possible, qu'on peut faire ce qu'on veut dans la vie, pourquoi tu le fais pas?
C'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait alors?
Le truc le plus fou que j'ai fait. C'est une bonne question.
Avoir un enfant.
Non, ouais, j'ai fait un enfant, j'ai monté une marque, ça c'est bon. qu'est-ce que j'ai fait de vraiment fou? C'est une bonne question, elles sont bien tes questions. Je sais pas si j'ai déjà fait un truc vraiment fou dans ma vie.
Ah ouais?
En fait, je me dis, ce serait peut-être temps de m'y mettre. Non, en vrai.
Non, mais je sais pas, qu'est-ce qui serait vraiment très très fou pour toi, à part reporter de guerre?
Bah ça serait vraiment barge.
Ouais.
Non, mais tu vois, faire un vrai trip, tu vois, un truc comme Mike Horn, quoi, aller traverser l'Antarctique ou faire le tour du monde sur l'équateur. S'il y a un truc vraiment fou, tu vois, j'ai vachement lu l'aéropostale, j'aime bien cette époque, de dire que tu refais le trajet de l'aéropostale, tu traverses l'Atlantique en bateau et tu récupères et tu prends toutes les étapes, tu montes la cordillère des Andes, ça. Des trucs vraiment, des voyages un peu ouf comme ça. Et ouais, je me dis, il est temps que je m'y mette, t'as raison, paf, je prends un coup de pied au cul pour plus tard. Grue-toi de faire des trucs un peu fous, on va voir qui sont trop tard.
Et d'ailleurs, comment tu fais pour te mettre des coups de pied au cul?
Écoute, je te dis, ouais, lire, regarder des bons docu, ça c'est vraiment un truc qui marche chez moi, de voir des vies de gens complètement dingos. Typiquement la biographie de Cartier-Bresson, qui est un photoreporter assez ouf. La biographie de Capa. Enfin, lire des biographies, c'est vraiment un truc qui marche pour moi. Et tu te rends compte qu'en fait, par la biographie, par les docus, tu te rends compte que les gens qui réussissent des trucs un peu dingos, un peu fous, en fait, il n'y a pas de chemin tout fait. C'est que des gens qui ont tenté des trucs à certains moments et ça a marché. Il y a un documentaire sur les Daft Punk qui s'appelle Daft Punk Unchained qui est trop bien. Enfin, ouais, trouver les gens qui t'inspirent et essayer de voir la vie qu'il y a derrière, en fait, comment ils en sont arrivés là, et tu te rends compte que c'est jamais facile, c'est jamais du premier coup, c'est toujours du travail, c'est que des gens qui sont allés chercher les opportunités, et je trouve que ça fait du bien, quoi. Tu te dis ok, bon bah.
Bah c'est ce que j'essaye de montrer aussi avec mon podcast. Quand j'ai été interrogé à certains de mes héros, ou des gens en tout cas qui m'inspiraient beaucoup, enfin tu te rends compte que finalement, c'est quand même que du travail et qu'il est comme toi, le mec. En fait, il a ses doutes, il a ses peurs, il a ses freins, etc. et qu'il y a été, quoi. Donc, ok, très bien. Écoute, on arrive sur la fin. La question que je pose toujours à la fin, c'est qui est-ce que tu souhaiterais entendre dans ce podcast?
Qui est-ce qu'on souhaiterait entendre? Je te mets un gros défi ou pas?
Il faut du lourd, là. Maintenant, tu peux commencer à mettre du très, très lourd. Yvon Chouinard.
c'est à ça que je pensais.
J'en étais sûr. Ouais, ça, c'est du très lourd. Hein.
C'est pas mal, ça, non?
Ça, c'est vachement bien.
Vraiment, je te jure, ça, le nom m'est venu à la tête. Je me suis dit, est-ce que je lui dis ou pas? Et je me dis, c'est quand même pas évident. Mais.
Écoute, défi relevé. Dernière question, quand même, juste avant de partir. C'est quoi ton mantra que t'as toujours en tête, gravé dans le cœur?
J'en ai plusieurs, mais j'aimerais bien en changer. Alors je réfléchis si j'en ai pas d'autres. Il y a une phrase que j'aime bien, que je dis souvent, qui est de Romain Gary, qui dit que, enfin, qui en tout cas, il dit qu'il essaye d'avoir toujours la même gueule deux fois de suite. Et je trouve ça assez chouette de se dire que quoi qu'il arrive, tu grandis, tu vieillis, tu fais des trucs, mais au fond, voilà, t'es quelqu'un sur qui tu peux compter et qui sera, en tout cas moi c'est comme ça que je comprends, et qui réagira de la même manière et qui sera, ouais, c'est quelqu'un de confiance, quoi, quelqu'un d'honnête et de droit, et qui aura la même gueule deux fois de suite. Et moi, c'est un truc qui m'anime pas mal parce que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est du temps long, quoi. C'est des rencontres On a compris que j'essaie d'en faire pas mal. C'est des gens que tu croises une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et de me dire que des gens que j'ai croisés dans un contexte il y a quatre ans, je vais les voir dans un autre contexte quatre ans plus tard et j'aurai la même gueule deux fois de suite, quoi. Mmh. Et c'est ce que j'essaye de faire et je trouve que c'est une bonne maxime. Après, d'autres la comprennent différemment, mais en tout cas, moi, elle me parle.
Très bien. Eh ben, merci infiniment, Guillaume, pour ton temps et tes conseils. Merci. On était donc dans le jardin des Tuileries. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Dans le jardin des Palais Royal, pardon. Et il y avait plein de monde, et il y avait du vent, il y a eu de la pluie, il y a eu des moineaux qui ont essayé de nous attaquer.
Et un banc sur lequel il y a marqué « Un secret a toujours la forme d'une oreille ».
Exactement. Et de l'autre côté, c'est écrit « Et glisse entre nous, Chris, le silence craque ». C'est hyper poétique. Hein. Franchement, c'est le podcast le plus poétique de tous les temps. Merci infiniment, Guillaume.
Merci à toi.
À bientôt. Salut.
Salut.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.